Un pas de côté, Jérôme Vuittenet, chapitre 7. Le lendemain, à 6h30, Antonine n'était toujours pas partie de chez ses parents. Après avoir rabattu la banquette arrière de la 205, il peinait toujours à faire entrer le guidon du vélo dans le coffre. Et finalement, se résolut à laisser dépasser la roue arrière sans pouvoir fermer le haillon. 10 minutes plus tard, il arrivait chez Jean-Jacques et Marion qui l'attendaient déjà à cheval sur leur vélo. Ils avaient tous les deux une remorque attelée à leur monture remplie de cagettes vides. Il bredouilla quelques excuses et sortit maladroitement le vélo de sa voiture en faisant cogner une pédale sur le pare-choc. Jean-Jacques, qui observait la scène, lui fit remarquer que sa chaîne était rouillée. « Oui, je ne l'utilise pas très souvent, avoua Anthony. » Sitôt qu'il fut en selle, ils pédalèrent en direction de la route. Puis prirent un chemin de champ tout proche qu'Anthony n'avait pourtant jamais remarqué. « Vous avez un verger par ici ?» demanda Anthony qui n'était pas très à l'aise sur sa selle inconfortable. « Par là-bas, » indiqua Jean-Jacques en montrant une direction perpendiculaire au chemin qu'ils étaient en train d'emprunter. « Alors pourquoi va-t-on par là ?» s'inquiéta Anthony. « Parce que c'est le seul chemin, » rétorqua Marion. Anthony se tut sans comprendre. Il ne réalisait pas la distance qu'ils allaient devoir parcourir. Dans son esprit, il n'était pas raisonnable ni concevable d'utiliser une bicyclette à des fins utilitaires pour se rendre à plus de 3 kilomètres. Pour une randonnée loisir, à vrai dire, il avait déjà du mal à l'imaginer. Les fesses en compote, au bout de quelques minutes, il peinait à suivre le rythme soutenu imposé par Marion et son père. Eux discutaient tout en pédalant, en commentant l'évolution de la végétation alentour. Le chemin se fit plus caillouteux et les secousses redoublèrent. Les remorques virevoltaient derrière les vélos et Anthony oublia ses fesses tant ses poignets le faisaient maintenant souffrir. « C'est encore loin ? » hurla-t-il alors qu'il l'avait distancé dans un faux plat. « Nous arrivons bientôt à la moitié du trajet, » dit Jean-Jacques se voulant rassurant. Anthony adopta une attitude compatible avec la durée de l'effort. Il géra son souffle et adapta sa vitesse à la distance estimée qui restait à parcourir. Il savait par ailleurs qu'il devait garder un peu d'énergie pour le retour. Il choisit comme point de mire la chute de rein de Marion qui se déhanchait devant lui. Mais la remorque qu'elle tirait l'empêchait de s'approcher suffisamment pour en profiter davantage. Ils arrivèrent enfin dans un champ mal entretenu où des abricotiers étaient disposés de façon anarchique entre les herbes folles et des haies sauvages. Jean-Jacques distribua une cagette à chacun et donna quelques consignes à Anthony pendant que Marion attaquait déjà la cueillette. « Ne prends que les fruits mûrs parfaitement dorés. Cueille-les délicatement, sans arracher la branche, et pose-les avec précaution dans la cagette sans les jeter, en une seule couche. Va sur cet arbre pour commencer, il est plus facile. » Il lui indiqua un abricotier qui semblait avoir des branches plus accessibles. Puis il sortit des grandes herbes une échelle qu'il dressa contre un arbre voisin et commença à cueillir à son tour. Anthony massa ses jambes et son derrière. La sueur qui avait mouillé sa chemise lui apportait maintenant une désagréable fraîcheur dans le dos. Il frissonna. Dos au soleil pour sécher plus vite, il commença à prendre les fruits que les branches de l'arbre lui offraient, un à un. Il regarda autour de lui et se rendit compte qu'il n'y avait aucune trace de civilisation visible. Pas une route, pas un poteau électrique, pas même une cabane fabriquée par l'homme n'était à portée de vue. Il se rassura en observant la traînée de condensation d'un avion dans le ciel parfaitement bleu. Alors qu'il lâchait un abricot à quelques centimètres de la cagette, Jean-Jacques lui fit une remarque depuis le haut de son échelle. « Tu poses le fruit, tu ne le lâches pas, s'il te plaît. » Lorsque sa première cagette fut pleine, une dizaine de minutes plus tard, il alla la poser fièrement près des vélos couchés dans l'herbe, mais s'aperçut qu'il y en avait déjà 4 autres, toutes pleines de fruits oranges. Il se dépêcha alors de prendre une cagette vide et de trouver un autre abricotier généreux pour reprendre la cueillette. Le soleil commençait à monter dans le ciel et la chemise d'Anthony était maintenant sèche et sa peau moite. Il observa le paysage autour de lui, tout en cueillant, et s'étonna de la façon dont le verger était entretenu, ou plutôt du fait qu'il semblait ne pas l'être. Des orties gigantesques bordaient le terrain, des broussailles et des ronces poussant çà et là lui donnaient l'allure peu engageante d'un terrain militaire désaffecté. Des insectes bourdonnaient autour des arbres et s'attaquaient aux fruits les plus juteux. L'ex-étudiant en école de commerce ne put s'empêcher de penser que si cet homme tirait ses revenus de l'exploitation de ces arbres, il y avait un manque à gagner certain dû à une absence de rationalisation. Des abricotiers plantés bien alignés et taillés régulièrement permettraient de gagner de la place, sans doute, pour planter une dizaine d'arbres supplémentaires. L'entretien du verger en faciliterait l'accès pour l'homme et limiterait la concurrence entre les différentes espèces végétales. Sans être agronome, Anthony se dit que ces simples mesures de bon sens amélioreraient sensiblement la récolte. Cependant, il se garda bien de les proposer à Jean-Jacques en ramenant sa deuxième cagette pleine de fruits. Marion était en train de disposer le chargement dans sa remorque, elle croqua ensuite la moitié d'un abricot tout juste cueilli et observa son noyau quelques secondes avant de le jeter dans l'herbe. Elle offrit la seconde moitié du fruit à Anthony. « Tu les as goûtés ?»«
Pas encore. »
Il accepta la moitié d'abricot et la mit dans sa bouche sèche. Explosion de saveur sur sa langue et son palais. Le sucre du fruit agit comme une récompense après sa chevauchée méritante et la cueillette au milieu d'insectes hostiles. « C'est bon, » dit-il simplement en lorgnant sur d'autres fruits de sa cagette. Jean-Jacques lui tendit une bouteille d'eau en verre, entourée d'un linge humide. Il posa ses lèvres sur le goulot et se délecta du liquide frais qui coula dans sa gorge. Pendant un bref instant, sa tête tourna. L'effort physique, le soleil, la robe de Marion qui se soulève sous le vent, il sentit ses pieds s'enraciner dans le sol et entendit les oiseaux presque crier dans ses oreilles. Il passa la bouteille à Marion, hors du temps, loin de tout. Jean-Jacques le sortit du coma en lui mettant dans les mains le guidon de son vélo. « La journée n'est pas finie !» Ils remontèrent en selle et empruntèrent un autre chemin qui traversait un bois. Les remorques un peu plus lourdes réduisirent l'écart et il ne se fit pas distancer cette fois. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent dans un village où la place du marché était occupée par les vendeurs. Tous saluèrent Jean-Jacques et sa fille de derrière leurs étals et observèrent l'inconnu qui les accompagnait. Ils s'arrêtèrent devant un restaurant d'où un homme sortit immédiatement, souriant. « Alors, vous avez du retard ? » dit-il en embrassant Jean-Jacques. « Nous avons eu un petit contretemps, avoua-t-il en regardant Anthony. « Ah, vous avez trouvé un nouvel ouvrier ? » dit le restaurateur en serrant la main du jeune homme. « Enchanté !» répondit-il en serrant le vélo entre ses genoux. Le cuisinier examina les cagettes et s'extasia devant les jolis fruits dorés. Il fit la moue en voyant une des cagettes remplies par Anthony, puis fit son choix. « Je te prends ces quatre-là, » dit-il en les montrant du doigt. « Notre tarte à l'abricot est un succès. Il y a des gens qui ne viennent que pour ça cette année. Je pourrais leur faire un plat surgelé avant, je ne suis pas sûr qu'ils s'en rendraient compte. »«
Tu exagères toujours. Les gens viennent de l'autre bout du monde pour goûter tes légumes à la tomate caramélisée. Je suis sûr qu'ils n'ont pas besoin de dessert après ça. » »«
Quand est-ce que tu viens manger à la maison ?»«
Pas aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à montrer à mon apprenti. »«
Viens avec lui, je te dois bien ça. »«
on viendra, c'est promis. »
Le restaurateur déchargea les quatre cagettes avec l'aide de Marion et disparut dans sa cuisine où l'on devinait l'agitation qui précédait le premier service du midi. Il était pourtant seulement 10 heures. Ils revinrent sur la place du marché où un maraîcher les attendait avec impatience. Sur son étal, une poignée d'abricots jaunes et ridés gisait au fond d'une cagette en plastique grise.
« Enfin te voilà, tu me sauves la vie !»«
N'exagérons rien, » répondit Jean-Jacques en le saluant.
« Mais comment tu fais? Les miens ont tous été mangés par la charca. » « L'affredon m'a tout fait arracher. »«
Je t'avais dit de ne pas planter de bergerons. »«
Mais c'est ce que veulent les grandes surfaces. »«
Justement, » dit Jean-Jacques en souriant. Il posa les cagettes restantes, sauf une, sur l'étal du maraîcher qui le remercia chaleureusement. Aussitôt, plusieurs clients arrivèrent pour lui acheter des abricots.
« Pourquoi ne les vendez-vous pas vous-même ? » demanda Anthony alors qu'il s'éloignait du marché.
« Je n'ai rien à vendre, » répondit Jean-Jacques.
« Mais ces abricots, ce sont les vôtres. Vous les avez fait pousser, vous les avez cueillis. » « Ce verger ne vous appartient pas ?»«
Rien ne m'appartient, » répondit-il calmement, comme si c'était une évidence.
« Dans ce cas, c'est du vol, s'insurgea Anthony. Vous m'avez fait faire de la maraude ?»«
Tout cela appartient à la terre. C'est à tout le monde. Ces abricots ne portent pas mon nom. Ce n'est pas moi qui les ai fait pousser. C'est le soleil, la terre, la pluie.
Mais ces gens à qui vous fournissez des fruits, ils vous payent bien pour ce service ?»«
Non. » »«
Vous faites tout ça pour rien ?» s'étrangla Anthony, en songeant aux efforts physiques que cela représentait ?
Tu n'utilises pas le bon vocabulaire. Tu opposes la rémunération par l'argent à rien, comme s'il n'existait pas d'autres alternatives.
Quoi, du troc ?
Non.
Alors quoi ?
C'est trop tôt pour que tu le comprennes. Tu le comprendras à la fin de ton stage, si bien sûr tu es disposé à le poursuivre. Anthony n'appréciait pas quand on le menait en bateau de la sorte. Cette façon de faire durer le suspense, de ne dévoiler ses intentions et ses projets qu'au compte-gouttes, l'agaçait. Mais en même temps, quelque chose, et quelqu'un, le poussait à aller plus loin. Marion semblait suspendue à ses lèvres, et l'attitude de son père paraissait l'avoir énervée, elle aussi. Volontairement ou non, elle remonta la pédale avec son pied et dévoila ainsi le haut de ses cuisses,
tout en fixant le jeune homme du regard. Il inspira profondément et finit par répondre. « Bien sûr que je continue le stage. J'en ai besoin pour valider mon année, avança-t-il comme pour se dégager de la responsabilité d'un choix qui n'avait rien de rationnel. » Les trois bicyclettes traversèrent le village et s'arrêtèrent au pied d'une fontaine pour remplir les bouteilles d'eau. « C'est de l'eau potable ?» s'inquiéta Anthony. « Meilleur que de l'eau minérale, » répondit Jean-Jacques. Marion prit la dernière cagette d'abricots et la déposa derrière la fontaine, par terre. Comme cela semblait être une habitude, Anthony ne posa pas de questions mais fut intrigué. Lorsqu'ils quittèrent le village, il se retourna et vit des enfants sortir des maisons les plus délabrées et courir vers la fontaine pour remplir le creux de leur maillot de corps d'autant de fruits qu'ils le pouvaient, puis rentrer aussitôt à la maison où leur mère les attendait sans doute, la pâte brisée déjà étalée au fond des tôles.